Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, donc c'est depuis le signe de croix qui a ouvert hier l'office de la Seine, nous sommes entrés dans la grande retraite de l'année. Cette retraite où nous est donné de vivre le cœur de toute notre foi. Alors dans ce premier enseignement de ce matin, ce que je vous propose tout simplement, c'est deux grandes parties. En fait, je vais passer un certain temps d'abord à se disposer ensemble. Comment entrer en retraite pour goûter intérieurement tout ce qui va nous être donné de vivre dans ces trois jours. Et puis dans une seconde partie, on reviendra sur la grâce, sur le porche du Triduum. La plupart du temps, les topos, ce sera pour méditer la grâce du jour, mais là, je vais revenir sur hier soir, parce qu'en fait, le Jeudi Saint nous donne la clé pour rentrer dans le Triduum. Donc voilà, on va y revenir, et cet après-midi, on sera plus directement dans le Vendredi Saint. Alors j'ai vu sur les feuilles, le Père Geoffroy avait mis à l'école de Saint-Jean, donc c'est vrai, mais un peu moins ce matin, et après, à partir de cet après-midi, on va tout le temps suivre, se mettre à l'école de cet immense témoin qu'est Saint-Jean. Alors voilà, entrons en retraite. C'est tellement immense ce qui se joue, ce qui se donne en ces jours, qu'on ne peut pas vivre ces jours en pensant à autre chose ou en restant dans notre train-train habituel. Bien sûr, on n'a pas tous la même disponibilité extérieure, certains ont des obligations familiales, peut-être certains doivent aller travailler aujourd'hui, peu importe. Le Seigneur le sait, il va bénir notre retraite. Mais dans ces jours saints, il y a une manière de vivre tout ce que nous avons à vivre qui est différente. Et pour cela, je vous propose donc dès maintenant d'entrer résolument en retraite dans le sanctuaire de mon cœur. Et ensuite, on va se laisser guider par l'Esprit Saint, chacun dans les circonstances qui sont les nôtres. Mais voilà, je choisis de me recueillir pendant ces jours où mon Dieu donne sa vie pour moi, pour découvrir ce don de Dieu d'une manière nouvelle et donc y puiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entrer en retraite? Je trouve que l'expression qui exprime le mieux cette disposition, ce serait prêter attention. Prêter attention à ce qui se joue. Voilà peut-être l'attitude clé pour vivre chaque moment de cette retraite. Et pour rentrer, pour accueillir cette disposition de l'attention, je vais vous lire un texte que je trouve magnifique de la grande philosophe Simone Veil, qui peut-être nous aider. La prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. De toute façon, on n'a pas la main sur la chaleur du cœur. Par contre, prêter attention, ça relève de ma liberté. Il y a vraiment désir quand il y a effort d'attention. Pour faire vraiment attention, il faut savoir comment s'y prendre. Le plus souvent, on confond avec l'attention une espèce d'effort musculaire. Si on dit à des élèves « maintenant vous allez faire attention », on les voit froncer les sourcils, retenir leur respiration, contracter les muscles. Et si après 2 minutes on leur demande à quoi ils font attention, ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont fait attention à rien, ils n'ont pas fait attention, ils ont contracté leurs muscles. Alors, voilà, donc ça c'est ce que ça n'est pas. Je ne vais pas me tendre comme une malade dans la prière pour que je comprenne un truc à ce texte compliqué. Non. le désir orienté vers Dieu est la seule force capable de faire monter l'âme. Ou plutôt, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et l'élève, mais le désir seul oblige Dieu à descendre. Il ne vient qu'à ceux qui lui demandent de venir. Et ceux qui demandent souvent, longtemps, ardemment, il ne peut pas s'empêcher de descendre vers eux. Alors, l'attention est un effort, le plus grand des efforts peut-être. Mais c'est un effort négatif. L'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet. La pensée doit être en attente, être prête à recevoir l'objet qui va nous pénétrer. Ça, c'est bien l'acte de Dieu. Mais ma part, c'est de laisser un espace dans le sanctuaire de mon cœur. Les biens les plus précieux doivent être attendus. Pour ça, quelle grâce d'être là ensemble. Parce que nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose. Car l'homme ne peut pas les trouver par ses propres forces. Voilà, Seigneur, donne-nous d'être attentifs, donne-nous de désirer, donne-nous de recevoir ce que nous ne pouvons même pas encore imaginer, parce que l'acte de Dieu est toujours nouveau, que tu veux nous donner à chacun personnellement dans cette retraite. À chaque instant, ces jours, je voudrais être attentive à Jésus, à ce qu'il vit pour moi, à travers tout ce qui me sera proposé et tout ce que j'ai à vivre dans la réalité qui est la mienne, il va se donner à moi d'une manière nouvelle, parce que c'est une relation. Pour cela, il est bien sûr nécessaire d'entrer dès à présent dans un certain silence et calme intérieur. Encore une fois, chacun saura, s'il a ses enfants, il ne va peut-être pas lui dire « je suis en silence » à son petit bout de 5 ans, on est complètement d'accord. Chacun va demander à l'Esprit Saint d'entrer dans le silence. Je ne pense pas que les enfants, en fait, empêchent d'entrer dans un silence tout disponible à ce que Dieu va faire. Un silence, en tout cas, une très grande sobriété. Pas des jours où on peut regarder un truc à la télé, enfin, c'est inimaginable en fait. Nos yeux sont tout entiers tendus vers un don qui ne se donne qu'à ceux qui prêtent attention. Peut-être au début de chaque jour, ou peut-être à la fin de chaque topo, chacun peut recevoir dans son cœur une prière du cœur qui l'aidera à revenir paisiblement sans se tendre à cette attention. Je donnerai des exemples de prières tout à l'heure, de petites prières du cœur, pour rester attentif. C'est ce silence intérieur et cette attention qui vont permettre de recueillir cette parole vivante. Je vais introduire à chaque fois, après le topo, à des temps de lection divine, donc de méditation amoureuse de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu vivante. Eh bien, elle pourra porter le fruit si elle trouve un espace, une terre, terre féconde pour cette semence. Alors, puisque cette attention demande un engagement de tout mon être, je voudrais nommer rapidement, je voudrais décliner ce tout mon être, tout simplement. Un engagement de tout mon être, c'est un engagement de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence, de toute ma liberté. D'abord, dans cette attention, on va impliquer notre corps. Le corps a vraiment une très grande importance pour être présent. Présent au don de Dieu, dans le réel, dans l'instant présent. Pour habiter, pour être présente, pour être bien à la maison, là où le Seigneur va venir me visiter, ben, il faut que j'habite ce temple qu'est mon corps. C'est vraiment le trésor des pères du désert, ça, de nous entraîner dans une prière, une relation avec le Seigneur qui est très incarnée, exemple, grâce à l'aide de la respiration, je peux revenir au temps présent, je peux, voilà, m'ancrer, être présent au présent, à la présence. Et bien, c'est en habitant mon corps. Voilà, donc ça peut être de penser tout simplement au début d'un topo, de prendre quelques respirations, de vous détendre, de, je sais pas, de décroiser les bras et les jambes. Et c'est tout simple, mais c'est. J'entre dans un autre temps que le temps du hamster qui court dans sa roue. Pendant un enseignement, pendant un office, pendant le chemin croix, commençons par revenir habiter ce temple que le Seigneur veut habiter. L'implication de mon corps trouvera d'autres expressions que l'Esprit Saint inspirera à chacune, à chacun. Pour aujourd'hui, il y a bien sûr le jeûne. Oui, Seigneur, je te préfère. Je ne veux pas me remplir. Je veux ouvrir mon espace par le jeûne. Ce peut être aussi la veille. Peut-être que cette nuit, certains vont se lever pour rejoindre le Seigneur. Ça peut être aussi dans le secret de ma chambre, c'est des moments où on sera aussi dans notre chambre, de poser des gestes plus intimes, d'embrasser une croix, un crucifix, de se prosterner. Chacun laissera son corps donner une expression concrète pour répondre amour pour amour. Et puis tout à l'heure, après le topo, il y aura le chemin de croix, qui est ce moment merveilleux où je veux marcher, me mettre en marche. Poursuivre celui qui ouvre la voie et qui m'apprend à aller là où je ne sais pas aller, là où je ne peux pas aller. Et puis ce soir, il y a cet acte merveilleux de vénérer la croix, de l'embrasser, de la toucher, d'exprimer toute ma confiance, toute mon attente, de dire à Jésus, de tout mon corps aussi, combien j'attends tout de lui. Voilà, chacun trouvera d'autres. Je me souviens une fois, j'avais fait tout mon triduum avec un petit crucifix dans la main. Voilà, ça peut aussi aider. On peut aussi mettre la main dans notre poche et donner la main à Marie en prenant la croix de notre chapelet. Voilà, chacun trouvera ou une petite image ou un petit sanctuaire, une petite face du Christ qu'on regarde régulièrement. Voilà, chacun trouve. Mais nous sommes des êtres incarnés. Alors le deuxième petit point, c'est de toute mon affectivité. Parfois je trouve qu'on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, tellement on se méfie d'une vie spirituelle qui serait fondée que sur l'affectivité. Dieu nous en garde, ça n'irait pas très loin. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, l'affectivité est essentielle. Évidemment, le Seigneur, dans cette retraite, veut nous emmener beaucoup plus loin dans l'amour. Donc, notre affectivité a évidemment toute sa place. Comment la zone affective de mon être va trouver à s'impliquer dans cette retraite? Seigneur, en ces jours où nous allons contempler ce que ça veut dire que tu m'aimes, donne-moi de goûter ta tendresse. Évidemment, je ne vais pas me créer moi-même des affects, je ne vais pas créer des sentiments, je ne vais mettre aucune pression à ressentir quelque chose, ça n'aurait aucun sens. Mais je peux demander au Seigneur de goûter sa tendresse, un amour tellement puissant dans sa vie d'homme aussi, qu'il a été jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi de goûter ta tendresse. Je peux le demander comme une grâce et ensuite j'accueille. Si je suis sec comme une branche, ben c'est pas grave. Mais au moins je me rends disponible, je désire goûter cet amour. Dans le même sens, aujourd'hui et demain, je peux demander la grâce à l'école de Saint-Ignace d'être affecté par ses souffrances. C'est pas rare que pendant le Triduum, moi je suis triste un peu d'être si peu affectée. Vraiment, plusieurs fois, je me disais, mais je le vois mort sur une croix et ça me laisse un peu de marbre, quoi. Quelle souffrance, en fait, franchement. Mais ça aussi, je peux l'offrir. Seigneur, comme je suis pauvre, comme je suis encore indifférente à ta souffrance et donc à la souffrance du monde que tu portes. Seigneur, viens attendrir mon cœur. Seigneur, je te demande la grâce pour aujourd'hui d'être affectée, d'être touchée par ta souffrance. Je te le demande. Comme tu veux, quand tu veux. Voilà, ici je reste sèche. J'offre ça au Seigneur. Et puis, dans cette retraite, nous allons accueillir des lumières. Le Seigneur donne des lumières dès qu'on ouvre un espace, c'est incroyable. C'est fou, dès qu'on prend une retraite, comme le Seigneur nous parle. Alors, oui, il va nous donner des lumières sur tout ce qui n'est pas encore dans l'amour. Et il y a peut-être des choses qui vont nous faire souffrir, des pardons impossibles à donner pour le moment, des souffrances d'être si peu saint. L'impression de ne pas avancer, des colères qui peuvent remonter, des découragements, des impuissances. C'est aussi là que mon affectivité s'engage. C'est « Seigneur, je veux bien que ces souffrances soient la brèche par laquelle je vais rentrer dans cette retraite. » Pendant quelques jours, en général, en retraite, on se désanesthésie un peu. D'habitude, quand on est dans notre roue de hamster, ben, on ne s'en rend pas compte. Et puis là, on prend un petit peu de temps et on se dit, ben, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout. Alors, Seigneur, donne la victoire, donne le salut. Nous n'avons pas peur de ces lumières. Surtout ce qui n'est pas encore saisi dans l'amour. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est vraiment un chemin. Là, je trouve qu'une des grâces du Vendredi Saint, c'est un peu d'être, vous savez, ce moment où le peuple d'Israël, donc ils ont la cavalerie des Égyptiens dans le dos, ils arrivent et là, ils ont la mer. Donc ils sont foutus. Ils sont là, ils sont foutus. Ils sont pris comme dans une tonnage. Et c'est un des passages magnifiques qu'on entendra, je crois, dans la Vigile, mais c'est ce moment-là où vraiment le peuple crie, enfin Moïse crie vers Dieu. Et ça marche pas, quoi. Entrons dans ce désir d'être sauvés, dans le désir que le Seigneur agisse à main puissante dans ma vie. Voilà, de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence aussi. Alors, bah oui, c'est quand même grâce à mon intelligence que je vais méditer tout ce qui m'est donné à contempler en ces jours, dans la liturgie, dans les enseignements, et puis surtout dans votre lection personnelle. Voilà, bah, mon intelligence. Le cœur de notre foi, c'est quand même pas évident. C'est un homme cloué à une croix il y a 2000 ans. Et donc, en quoi ça va changer ma vie? Qu'est-ce que tout cela signifie? Ce que nous allons contempler, c'est vraiment un grand mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose où tu dis « arrête de chercher, tu comprendras rien ». Un mystère, c'est « puise sans cesse ». C'est ton 50e triduum, je pense pas que tu aies fait le tour. Je crois vraiment que plus on avance, plus ce mystère nous saisit, est immense. Mais de plus en plus, on voit bien qu'on en a vraiment pas fait le tour. En fait, c'est quand même, il faut vraiment chercher de toute notre intelligence. Voilà, on va puiser ensemble dans la puissance de l'esprit de lumière, on va puiser à la source de lumière et de vie qui va nous être donnée. De trivium en trivium, on a toujours une petite lumière au moins pour vivre de ce grand mystère. Donc vraiment, là, l'attitude de se prêter attention, c'est désamorçons nos évidences, nos habitudes, de croire qu'on sait. Comme c'est beau la fraîcheur des catéchumènes. Comme c'est beau les jeunes qui passent leur vie à se poser des questions. Maintenant, il y a plein de jeunes qui arrivent, ils connaissent rien en fait. Donc c'est génial, ils découvrent tout, ils posent plein de questions qu'on n'ose plus parfois poser quand on est catho depuis 50 ans. Et c'est des trop bonnes questions. Désamorçons nos évidences. Parce que si on en vivait pleinement, bon, ça se verrait. Je ne parle pas pour vous parce que je ne vous connais pas, je parle pour moi. Voilà, et puis peut-être la manière de prêter attention, ça va être quand j'ai une lumière, de bien la recueillir, de la noter. Combien de fois on me dit ah, ça c'est trop bien, ça m'a trop éclairé, puis en fait, une heure après, quelqu'un vous demande ah non, c'était trop bien, vas-y, dis quoi. Et on n'est pas capable. Donc notons, recueillons, faisons notre miel dans la liturgie, dans tout. Le Seigneur va parler. Recueillons et faisons notre miel avec ça. Mais je vous dis cette phrase de saint Ignace, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Une petite lumière, peut-être ça va faire votre tridium, ça suffira. Et de toute votre intelligence, vous allez lui faire porter du fruit jusqu'à ce qu'elle transforme nos vies, jusqu'à ce qu'elle impacte ma volonté. Alors, bien sûr, le dernier de tout mon être, c'est ça va aller jusqu'à mon cœur profond, ma liberté. Bien sûr que cette lumière, elle est livrée à des êtres, à des hommes et des femmes libres, qui vont accueillir ou pas cette lumière. Cette lumière que nous allons chercher, elle est pour susciter une réponse. Le but est bien de connaître Dieu pour en vivre. C'est une connaissance qui est une vie, une communion pleine de vie, pleine de joie. Cette connaissance, elle a pour fruit une transformation. Voilà, nous allons prêter attention à la révélation de l'amour de Dieu dans notre histoire pour en être transformés. Donc voilà, ultimement, c'est toute ma liberté qui est engagée. Vous vous rappelez, je commence un tout petit peu du Saint Jean, mais... Vous vous rappelez ce magnifique passage de la Samaritaine ? Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais dit « Donne-moi à boire » et il t'aurait donné l'eau vive. Si tu savais qui je suis, nous n'allons pas arrêter de regarder Jésus. Car quand je découvre qui est Jésus, ça c'est la source de la cascade, je découvre ce qu'il veut me donner et qui dépend totalement de qui est Jésus. Car Jésus, à cause de ce qu'il est, peut me donner ce que personne, aucun autre homme ne peut me donner parce que Jésus est Dieu. Donc on ne va pas arrêter d'essayer de regarder qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est en train de faire là dans ces jours. Et de cela dépend la grandeur de son don pour ma vie et pour le monde. Alors, au début, donc, Jésus dit ça, et puis vous vous rappelez, la Samaritaine, au début, elle ne comprend rien, pourquoi tu nous parles, toi, t'es juif, etc. Puis après, elle comprend un petit peu. Ah oui, d'accord, super pratique, si t'as une bonne source, j'aurais plus besoin de me casser à aller à la source tout le temps, trop pratique. De fil en aiguille, elle avance, et elle comprend, elle finit par dire, mais... Oui, donne-moi à boire. Jésus a suscité quelque chose. Donne-moi à boire de cette eau. Mais le point de bascule, quand elle va pour qu'elle ait accès à qui est celui qui lui parle et qui lui offre beaucoup plus qu'une nouvelle source. Vous savez, c'est quand Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Quelle est belle cette femme. Elle n'est pas sur la défensive, elle accueille la lumière. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je n'ai pas de mari, j'ai une vie. Bon, c'est pas tout à fait ça. Jésus lui dit, il encourage, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu vivrais. Et grâce à cette lumière accueillie sur sa vie, telle qu'elle est, cabossée, elle va pouvoir faire cette bascule de découvrir qui est Jésus. Elle qui était toute dans la honte, elle part en courant dans la joie, et grâce à elle, tout son village va être saisi par la joie de la rencontre avec l'époux. C'est quelque chose de merveilleux. Cette femme, elle se laisse approcher par la lumière. Et bien voilà, nous séparer. Entrer dans une retraite, c'est entrer dans un chemin où la lumière va éclairer la ténèbre. Une retraite, c'est une Pâque surtout. C'est un passage de ce qui est ténèbre, mort, tristesse, repli sur soi, désespérance, lourdeur, à la vie véritable pour laquelle nous sommes faits. Voilà. Eh bien, Seigneur, vas-y. Je viens avec ma vie telle qu'elle est. Je veux bien ta lumière. Je veux bien. Ce que tu vas me montrer, je ne le sais pas encore. Je veux bien. Voilà, pour ces 5 lieux, de tout mon être, de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence, de toute ma liberté, c'est toi que je cherche. Et Seigneur, à partir de maintenant, j'ai les yeux fixés sur toi et je veux te laisser faire ton grand passage en m'emmenant. Alors, où est-ce qu'on va vivre tout ça? Bon, je note juste 5 lieux où on va vivre particulièrement ceux de tout mon être. Bien sûr, d'abord dans la liturgie. Ça, c'est ce qui est merveilleux dans un triduum pascal. C'est qu'il y a une liturgie tellement déployée, tellement puissante en elle-même. C'est Dieu qui fait son œuvre. La liturgie, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'acte de Dieu. Nous, on va essayer d'être tout présent, de prêter attention. Et le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Ça me fait penser, quand j'étais petite, j'adorais quand, avec papa, on allait au truc pour laver la voiture avec les gros rouleaux. Bon, vous voyez ce truc? Quand on est enfant. Alors on est dans la voiture, on ferme bien les vitres et on passe. Et là, t'es dedans et t'as les gros rouleaux qui te déploient partout. Bon, et ben la voiture, elle rentre, elle passe dans les rouleaux, puis elle sort. Ben nous, c'est ce qu'on va vivre. Si on prête attention, le reste, c'est l'œuvre de Dieu. On est rentré dans le triduum hier soir, il y a encore aujourd'hui, demain, on va se laisser travailler. Et hop, dans la vigile de Pâques, on va passer de l'autre côté des rouleaux. Et c'est l'acte de salut du Seigneur. C'est lui qui le fait. Nous n'avons qu'à prêter attention. Nous voilà embarqués dans le grand passage. Nous allons passer de la mort à la vie. Alors, bien sûr, le deuxième grand lieu, c'est la prière personnelle. Et au fil des 5 topos, je vous donnerai à chaque fois des petits points pour la prière. Donc, le contenu de la lecture, mais aussi des petits conseils pour prier. Mais en tout cas, pour le moment, je donne des grandes lignes, c'est tout se joue là. C'est le lieu où nous accueillons, où nous faisons notre miel, c'est le lieu où nous collaborons à l'œuvre de Dieu. Et vraiment, on va beaucoup parler à Jésus, on va beaucoup le regarder, on va beaucoup l'écouter, chercher à connaître, mais parlons beaucoup à Jésus, aimons-le beaucoup. Ces temps de prière personnelle sont nécessaires qui font tout, il y a 5 heures d'enseignement, c'est beaucoup. Et ben, ces temps de prière personnelle, c'est là où Jésus peut parler. J'espère qu'il peut aussi un petit peu parler pendant, mais quand même, le temps de prière personnelle, c'est là où le maître intérieur va faire tomber dans votre cœur, à vous, les paroles de vie qui sont pour vous. Troisième lieu, c'est la charité fraternelle et la vie de service, au sens très large, c'est la vie de charité. Si nous voulons demeurer dans la présence du Seigneur, le rencontrer, lui qui est amour, il nous faut vivre d'amour. Et donc, c'est là où je me dis que dans nos vies de famille, tous ces petits actes d'amour pour le conjoint, pour les enfants, évidemment qu'ils ne sortent pas du trivium, demeurons dans l'amour et continuons à suivre Jésus qui aime jusqu'au bout, en commençant à enclencher ce mouvement d'aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout mon conjoint, aimer jusqu'au bout mon enfant, et tous ces petits sacrifices, d'aimer jusqu'au bout un enfant qui est en train de me pourrir le temps que j'avais prévu pour l'élection, et bien voilà, que l'Esprit Saint unifie tout cela pour que nous demeurions dans l'amour. Et puis, quatrième lieu, peut-être qu'il y en a qui travaillent. Eh bien, ça, dans ce cas-là, si vous n'avez pas pu faire autrement et que vous devez aller travailler, tout notre réel fait toujours partie de notre vie avec Dieu, quoi. Donc, je vais vivre ces journées de travail en étant hyper attentive, autant que je peux. Et voilà, là, le petit conseil, c'est juste d'anticiper pour donner ce que vous pouvez et donner tout ce que vous pouvez. Donc, c'est juste de prendre le temps le matin de se dire voilà, quand est-ce que je vais pouvoir aller au fond de droit, quand est-ce que je vais pouvoir prendre ce temps de prière de cœur à cœur. Anticipons un tout petit peu et puis ensuite soyons heureux de ce que nous pouvons donner et ça suffira au Seigneur, ce sera sa brèche. Alors, c'est là où on peut particulièrement se laisser habiter par une petite prière du cœur. Quand on est au travail, en sortant d'une réunion, en allant vers chez vous, dans ce que vous avez à faire, d'avoir une petite prière qui vous permet de revenir à lui. Merci Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Jésus, mon roi, je crois en toi. Vous en prenez qu'une, celle qui montera dans votre cœur, et c'est celle-là que vous répétez toute la journée. C'est mieux d'avoir toujours la même parce qu'elle burine notre cœur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Jésus, mon sauveur. Jésus, donne-moi de goûter ton amour. Jésus, merci. Jésus, je t'aime. Voilà, c'est des exemples, mais la bonne prière du cœur, c'est celle qui monte dans votre cœur. Voilà, et le cinquième lieu que j'ai demandé la grâce de prêter attention, c'est les temps morts. Les temps de transport, les temps de bâtiment, les temps où on attend un office, etc. Ne renversons pas le vase qui se remplit de la présence de Dieu dès que nous sortons en s'agitant, en riant fort ou je sais pas quoi. Mais demandons cette grâce de recueillement qui n'est pas triste mais qui est profonde et la tonalité de ces deux jours est grave. Voilà, veillons sur notre cœur. Voilà, Seigneur, je voudrais de tout mon cœur, de tout mon être, être avec toi dans ces jours saints. Alors, je voudrais maintenant, donc dans cette deuxième partie, repasser avec vous le grand porche par lequel nous sommes entrés en trivium, en revisitant la grâce de hier soir. Pour cela, j'ai simplement reprend 3 points d'hier soir. Jean 13, le lavement des pieds. La scène, ceci est mon corps. Et Gethsémani, le temps au reposoir. Jean 13 d'abord. Nous lirons donc tout l'évangile de la Passion, mais nous sommes entrés dans le Triduum par Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. L'heure est venue. Quand on lit ça, en Jean 13, pour celui qui vient de lui, qui a lu tout l'évangile de Jean, l'heure est venue. C'est lourd. C'est pas lourd au sens où c'est pesant, c'est lourd, ça veut dire c'est lourd de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'évangile de Jean. Le début de l'évangile de Jean, à Cana, en Jean 2, l'heure n'est pas encore venue. C'est l'heure des signes. Et le premier signe, vous vous rappelez, c'est Cana transforme notre eau en vin et nous donne à pressentir la joie des noces par ce vin d'une saveur inconnue, une joie inconnue ici-bas. Donc vous voyez, quand on dit que l'heure est venue, en fait, tout ce qu'on a vu, tous les signes que Jésus a posés dans les 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean, eh bien, on comprend que c'est tout ça qui va enfin être donné. Il nous a donné par anticipation de comprendre l'incroyable don qui va nous être donné à la croix, ce qu'on va méditer aujourd'hui demain. Il nous l'a donné par mille facettes. L'heure est venue, donc je vais vous retirer un tout petit fil là. Donc, Jean 2, l'heure est venue de ces noces où ce que veut Jésus, c'est nous donner à boire un vin, une saveur, une joie des noces, ce que mon cœur cherche, cette joie que mon cœur cherche, cette communion dont le vin de Cana est le signe. Ça va être donné à la croix. Cette heure est venue, c'est aussi, à la fin de Jean 2, vous vous souvenez, c'est la purification du temple. Il faut que ce corps meure pour qu'il y ait un temple nouveau où tu auras accès à Dieu. L'heure est venue, où ce temple nouveau, où je vais pouvoir revenir à la maison du Père et être à la maison. Jean 3, l'heure est venue pour être engendré d'en haut, Nicodème. Tu vas avoir une vie nouvelle. C'est un commencement nouveau, radical. Jean 3. Et Jean 4, c'est la Samaritaine. L'heure est venue pour que tu goûtes cette eau vive, ce dont tu as tellement soif et que tu ne trouves pas dans les joies de ce monde. Jean 4. Et la fin de Jean 4, il y a un fils qui est sur le point de mourir et Dieu, Jésus lui redonne la vie. Oui, l'heure est venue de naître comme des fils, de ressusciter comme des fils. Et Jean 6, c'est le pain de vie. L'heure est venue où je vais te donner à manger ce pain qui te permet de demeurer en Dieu de l'intérieur et de vivre de sa vie. Et Jean 7, venez à boire de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Mais ce n'est pas encore venu car il n'y avait pas encore d'Esprit Saint. Maintenant l'heure est venue. Prête attention, je vais te donner en surabondance l'eau vive de mon Esprit Saint. Et Jean 8, c'est la femme adultère. L'heure est venue où je vais prendre sur moi la lapidation qui menaçait cette femme. Et Jean 10, l'heure est venue où le bon berger va rassembler les enfants de Dieu dispersés. Ils partaient dans tous les coins. C'était la division, c'était pas la communion. Mais l'heure est venue où le bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Il ne va pas les laisser se perdre. Il veut les prendre ensemble sur ses épaules. Et enfin Jean 11, l'heure est venue. Voilà la puissance de mon acte. Lazare sort. Sors de ce tombeau. L'heure est venue où je veux te ressusciter. » J'ai sauté Jean 5, je ne sais pourquoi. L'heure est venue où ce paralytique qui attendait son salut d'une espèce de piscine avec des faux dieux, là, a rencontré le vrai Dieu qui lui permet de marcher, lui qui était paralysé, toutes les paralysies. Et puis Jean 9, l'heure est venue où toi qui es aveugle, tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir le royaume. L'heure est venue où tout cela va s'accomplir. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, Jésus, sachant que le Père a tout remis dans ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu. Voilà. Jésus, on ne va pas arrêter de le voir, il est le Fils du Père. Il vit toute sa vie d'homme en recevant tout son amour du Père. Et c'est pour ça qu'il peut aimer jusqu'au bout. C'est parce que ce don, c'est parce qu'il reçoit tout l'amour du Père. Il est tellement aimé, aimé, qu'il va aimer dans notre histoire. Mais bien sûr, dans notre monde, c'est pas comme au milieu de la Trinité où il reçoit tout l'amour du Père, il se donne de toute éternité. Oui. Mais voilà que le début de Jean 13 est redoublé au cours d'un repas. Et là, il rajoute la deuxième fois. Il y a deux fois le truc, et la deuxième fois, il rajoute « Alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas, Iscariote, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, blablabla. » La deuxième fois, cet amour du Fils et du Père qui est parfait, il va le vivre dans un monde où il y a ça, où il y a le mystère du mal, où il y a son meilleur ami à qui il a lavé les pieds, qui est en train de le trahir. Et bien voilà, c'est dans le monde plein de ténèbres, le monde où le dessein de Dieu qui n'est qu'amour est rejeté, c'est dans ce monde que le Fils est venu aimer jusqu'à l'extrême. Et c'est pour ça que ça prend, c'est ça qui fait qu'il se retrouve sur les croix. Il n'est qu'amour, comme de toute éternité. Mais cet amour, il le vit dans un monde où l'amour n'est pas aimé. Voilà donc une énorme clé pour vivre la Passion. Nous allons regarder tout au long de la Passion comment, comme homme, dans notre monde, pas dans un monde de bisounours, dans notre monde, le même que celui dont nous souffrons, il a aimé jusqu'au bout. Il a pu aimer jusqu'au bout parce qu'il est le Fils parfaitement relié au Père, à l'amour. Et c'est dans notre monde qu'il ouvre le chemin de cet amour divin jusqu'à l'extrême. Alors, Jean 13 termine, hein, Jésus sachant, etc. Il se lève et il va laver les pieds, le lavant des pieds qui était souvent hier dans la liturgie. Jésus nous montre concrètement ce qu'il va faire tout au long de sa passion. Il se met à genoux devant toi pour te montrer qu'il veut t'aimer jusqu'à l'extrême, dans ta vie qu'il connaît. Alors, ce geste, nous ne le comprenons pas. Seigneur, toi me laver les pieds. Pierre, laisse faire. Plus tard, tu comprendras. Entre dans ce trivium, laisse-toi faire, laisse-toi dérouter. Laisse-moi te purifier, laisse-moi te sauver de ce dont tu ne sais même pas que tu dois être sauvé, d'une manière qui te dépasse. C'est seulement si tu me laisses faire que plus tard tu comprendras. Tu auras part avec moi. Accueille ce geste, accueille tout ce que je fais, prête attention, regarde. critères. Voilà pour Jean XIII. L'amour jusqu'à l'extrême, c'est ça qu'on va regarder. Alors, deuxième clé du porche du Jeudi Saint, ceci est mon corps livré pour vous. Le don de l'Eucharistie, c'est la deuxième lecture de l'office d'hier. Ceci est mon corps livré pour toi. Ce qui est incroyable, c'est que cet amour jusqu'à l'extrême qu'on vient voir avec Jean XIII, c'est un amour qui a voulu se rendre communicable. Ceci est mon corps pour que tu en vives. Mange-moi pour être entraîné dans cette dynamique de l'amour jusqu'à l'extrême, qui est la logique du royaume. Entrons dans ce triduum et dans toute la contemplation de Jésus qui va aimer jusqu'au bout avec ce « pour vous » dans le cœur, pour toi, pour moi. Tout ce que je vais voir Jésus faire, c'est pour moi, pour que j'en vive, pour que je sois saisie dans cet amour. Bien sûr, il y a l'histoire de Jésus il y a 2000 ans, mais cette histoire, elle veut continuer à être vécue dans mon histoire, autant que je voudrais bien qu'il vive son histoire en moi. Alors, je raconte une petite histoire. Donc, vous connaissez tous l'histoire du père Maximilien Kolb, vous vous rappelez, on est en 1941 au Chili, il y a un type qui a réussi à s'évader, remontrance, il y en a 10 qui vont être tués pour cela. Et puis là, il y a un des gars, un des 10, qui s'écrit « Ma pauvre femme, mes pauvres enfants ». Et Maximilien Kolb, prêtre, entend cette phrase, s'avance et dit « Je suis prêtre catholique, je veux prendre la place de cet homme ». Maximilien était tellement nourri d'Eucharistie, saisi dans l'amour, sa vie était déjà tellement devenue eucharistique qu'il fait preuve de cette liberté chrétienne. De donner, d'aimer jusqu'à l'extrême, parce qu'il est saisi par la détresse de cet époux. Et puis, donc, alors que d'habitude, dans le bunker de la faim, on entendait les gens hurler, etc., là, comme vous le savez, le gardien du bunker a témoigné qu'en très peu de temps, Maximilien Kolb a fait régner la paix et qu'on entendait des chants de louanges. Il était resté branché à la source de l'amour et ça n'en finissait pas tellement les louanges vous vivifient, il a fallu lui faire une piqûre pour le tuer. Ceci est mon corps livré pour toi, Maximilien, pour que toi aussi tu deviennes un homme, c'est-à-dire un être pour la communion, un être pour l'amour. Alors je me suis dit, imaginons que le père de famille polonais, voyant cet acte d'amour de Kolb, et fait comme si cet acte d'amour n'existait pas, ou qu'il n'y ait pas cru, qu'il soit resté dans le peloton des condamnés. T'imagines, le type, il reste dans son truc, non, il sort pas du rang et il dit c'est complètement fou de faire ça, de prendre ma place alors que toi tu pourrais vivre. C'est complètement idiot, c'est un peu excessif comme amour. T'imagines, donc le type, il reste. Quelle souffrance ça aurait été pour le père Kolb. Quelle souffrance, son acte d'amour aurait été rendu vain. Quelqu'un aurait bien proposé de se substituer à lui pour mourir, il n'en aurait pas goûté le fruit. Il aurait pu dire, mais non, ne fais pas ça, c'est excessif. Au contraire, ce père polonais a accueilli avec une immense gratitude le don de ce prêtre qui l'a sauvé. Et je ne connais pas la fin de sa vie, mais on peut s'imaginer, si ça m'était arrivé, que toute sa vie en a été transformée. C'est tellement bouleversant d'être bénéficiaire d'un tel acte d'amour. Il a sans doute été marqué par ce sceau de l'amour. Voilà, l'acte de pur amour de Kolb a porté du fruit dans la vie d'un autre. Eh bien, de même, Jésus c'est totalement offert pour moi. Mais je dois encore manger cette hostie. Pas qu'avec mon corps, manger cette hostie avec toute ma foi, jusqu'à vivre cette Eucharistie. L'Eucharistie, l'acte du salut que nous regardons, c'est une puissance d'amour qui est appelée à s'activer dans chacune de nos existences. Je dois répondre dans la foi. Amen, je veux que tu vives en moi cette vie d'amour jusqu'à l'extrême. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Oui, je veux de toute ma liberté vivre cette liberté que tu me donnes de dire oui à Dieu. Alors, troisième et dernière clé, Gethsémani. Après avoir célébré le don de l'Eucharistie, et c'est tellement important qu'on ait commencé par ça, parce que Jésus n'a pas dit « Prenez et mangez toute cette souffrance, prenez et mangez toute cette crucifixion. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Prenez et mangez ce qui est mon corps. Mange cet amour et vis-en. » Donc avant de suivre Jésus dans le chemin de croix, il faut qu'on ait vraiment planté dans notre cœur « Il a aimé jusqu'au bout pour toi. » Voilà, donc après on a eu la scène, et puis hier au reposoir, on pouvait méditer avec Jésus à Gethsémani, Jésus qui entre dans le grand combat pour aimer jusqu'au bout, comme il aime son Père de toute éternité, mais cette fois-ci dans un monde où le diable a mis dans le cœur de Judas de le trahir. Voilà, l'amour va devenir douloureux, pas à cause de Dieu, à cause des hommes qui refusent l'amour de Dieu. Alors, c'est le premier texte que je vous propose pour une petite lection. Vous pourrez prendre le temps que vous choisirez après ce topo. Et donc, je dis quelques mots sur la lection. Et puis ensuite, je dis quelques mots sur ce texte, et puis après, j'arrête. Donc, la lection, la lecture priante de la parole de Dieu, vous voyez, c'est une lampe, c'est une énorme lumière sur notre vie. Lampe, L-M-P, lampe, L-M-P. Donc, le chemin de la lection que je vous propose, c'est L-M-P, lecture, méditation, prière. Et alors, ça devient une lampe pour ma vie. Donc, vous allez commencer par lire tout simplement, tout doucement, le plus doucement possible, le texte de Gethsémani, soit dans votre Bible, soit sur les feuilles que vous avez reçues. C'est Matthieu 26, 36 à 46. Et donc, vous lisez cette lecture tout doucement en regardant Jésus. Vous pouvez lire plusieurs fois. Et ensuite, vous allez donc méditer. Donc méditer, je vous propose trois points. Notre manière de veiller et prier, comme il nous le demande, ce sera de regarder trois points. Le premier point, c'est que à Gethsémani, Jésus qui est tout entier oui, qui est tout entier amour, rencontre dans un combat d'une immense violence le nom de tous les hommes, le nom des hommes, le nom de Judas qui est en train de venir le trahir, mais dans ce mystère de Judas, il y a tous nos noms qui viennent, que Jésus se prend de plein fouet, lui qui n'est qu'amour, et qui donc est beaucoup plus vulnérable à la souffrance du péché, à la laideur du péché, que nous qui avons toutes nos protections psychologiques. Combat d'une immense violence. Chez Marc, c'est tellement violent que Jésus s'écrase sur le sol. Chez Luc, ce combat est d'une telle violence qu'il se met à suer des gouttes de sang. Chez Matthieu, le texte que vous méditez, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Et il leur dit, trop beau, il partage à ses très proches sa souffrance, il leur dit, mon âme est triste à en mourir. On va prendre le temps de de prêter attention à cette immense souffrance de Jésus qui vient au milieu de notre monde et se laisse atteindre par le nom des hommes au dessein d'amour de Dieu. Jésus avance, il va de l'avant obstinément dans le bien, même en se heurtant au mal. Son combat montre la non-résignation de Dieu au mal, le corps à corps entre Dieu et ce mal qu'il ne peut pas concevoir. On va regarder ça, on va regarder que Jésus, il ne fait pas semblant, vous savez. La souffrance de Jésus est vraiment à la hauteur de quelqu'un qui n'est qu'amour. Et le deuxième point, vous relisez en regardant autre chose, vous allez regarder ensuite l'évolution de la prière. C'est très très beau. Matthieu, dans les trois qui racontent le combat à Gethsémani, Matthieu est le seul qui raconte une prière en trois fois, donc ça c'est aussi chez Marc, mais cette prière, elle évolue vraiment chez Matthieu. La première fois, c'est « Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi, lui qui n'est que du côté de la vie, Jésus est tout sauf suicidaire, Jésus est la vie, il est l'amour. » Donc que cette... Donc c'est pour vous dire, il ne fait vraiment pas semblant. « Père, que... » Mais déjà, dès la première prière, il y a plus profond que ce désir d'échapper à une telle souffrance. Plus profond, il dit, il laisse ce cri jaillir, mais tout de suite il dit, mais non pas ma volonté, ta volonté. Je veux bien traverser tout cela pour ouvrir le chemin de l'amour à l'intérieur de ce monde qui n'est pas très en forme. Alors on va regarder que même Jésus qui est fils de Dieu, il a dû recevoir dans le temps et dans la prière son oui. C'est bouleversant de voir ça. Au début, il dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi ». Une heure après, ce temps où il a tout reçu du Père, il dit « Levons-nous, allons ». Et il voit ce traître de meilleur pote qui vient le trahir et il va se laisser. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui l'attends. » Mais moi, ça me bouleverse de voir cette évolution de la prière. C'est même Jésus, il a dû recevoir du Père son oui à l'amour jusqu'à l'extrême, dans un monde qui le refuse. Donc vous pouvez contempler dans ce deuxième point la liberté souveraine de son oui, un oui proféré dans l'horreur de la nuit, comme dit Pascal, et qui ne sera jamais repris. Jésus dit oui à la mort, les yeux ouverts, en fait, à Gethsémani. Après, il sera pris, il sera ligoté, mais là, on voit tellement bien sa liberté. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et enfin, dernier point, ce qui a causé la tristesse et la sueur de sang du Seigneur à Gethsémani, c'était de voir combien d'âmes ne participaient pas au fruit de la passion. Ça, c'est un peu l'histoire que je vous ai racontée avec ma petite parabole avec Maximilien Kolb. Il est tellement dans l'amour, il est trop... C'est sa joie de tout nous donner, mais ce qui est terrible, c'est si les gens restent dans le peloton au lieu de se laisser libérer. Ça, c'est l'horreur. Quand on aime jusqu'au bout et que notre don n'est pas accueilli. Alors nous pourrons consoler Jésus, nous rendre compte de notre indifférence, demander la grâce de voir à quel point nous n'accueillons pas son don jusqu'à la transformation offerte. Et nous pourrons aussi entrer dans ce triduum avec un cœur large, en épousant le cri de Saint Dominique, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Il y a ma propre indifférence, et il y a l'indifférence de notre monde, dans ce jour ensoleillé où j'étais à la boulangerie tout à l'heure, et c'était marrant comme contraste. Les gens ne savent pas ce qui est en train de se jouer. Voilà, on peut... oser prendre à bras le corps les refus qui nous semblent les plus insurmontables, les situations les plus désespérées, et habiter cette cellule de Gethsémani, cette heure du grand combat, en disant, voilà, don ne soit pas vain. Que ton amour soit accueilli, Seigneur. Voilà les trois points pour la méditation. Vous pouvez revenir plein de fois au texte, écrire des versets si ça vous aide à ralentir. Et puis ensuite, LLP. Après, la lection devient prière. Ça veut dire que je laisse l'Esprit-Saint faire monter la prière en réponse à cette parole. Et cette réponse peut être un silence quand c'est donné. Elle peut aussi être une parole. Elle peut être un cri. Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi d'une telle indifférence. Seigneur, ou bien ça peut être un énorme merci, ça peut être ce qui montera dans votre cœur. Et ça peut être un silence. Être avec Jésus. Être avec Jésus. En ce temps. Voilà, l'heure est écoulée. Je m'arrête. Je vous propose simplement de nous reconfier à Marie. Te confier, mon Seigneur, ce temps de prière. Nous te confions notre engagement de tout notre être dans cette retraite. Donne-nous d'être avec toi, de rester avec toi, de t'aimer, de te répondre amour pour amour. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. L'avantage avec les feuilles, c'est que j'ai un peu marqué acte 1, acte 2, donc ça peut aider. Mais ceux qui préfèrent prier avec leur Bible, évidemment, prenez toujours votre Bible. Je vous conseille de prendre votre grosse Bible pour la lecture. Bonne retraite.